Shalom à tous, à toutes présents ici, et que la paix de Dieu soit avec tous qui assistent au culte en direct et en différé sur YouTube. Je m'appelle Sangwon Han. C'est un peu difficile de prononcer au début si mon prénom coréen, mais grâce à plusieurs personnes d'origine coréenne, je pense que ce n'est pas très étrange pour vous. Je suis marié avec Ahson, qui est aussi coréenne. Elle est présente ici. Nous avons 3 enfants. Nous sommes ici dans le secteur depuis l'année dernière. Pendant les 6 premiers mois, nous sommes allés assister à culte des églises de type très très différentes, orthodoxes, catholiques, protestantes unies, et puis même aussi charismatiques, et puis d'une église ethnique. Donc aussi, on est allé partout pour découvrir les ambiances chrétiennes de France, surtout aussi en Île-de-France. Et après avoir passé six mois, et Sonia et moi, nous avons décidé d'assister régulièrement le culte ici avec vous. Et un jour, André et Michel, ils nous ont invités à manger ensemble, et puis nous avons passé des heures. Et à la fin de la rencontre, il nous a proposé d'apporter un message avant que nous partions dans d'autres régions. Pour moi, c'est un grand honneur. Merci. Et pour partager la prédication, j'aimerais quand même prier afin que je puisse prononcer agréablement, parce que c'est pour certains, c'est l'accent coréen est un peu difficile, parce que vous êtes obligé de donner vos efforts pour comprendre. Et puis, moi aussi, j'ai besoin aussi de parler en étant conduit par notre Seigneur. C'est pour ça que je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci dans ta fidélité que tu nous as déjà montrée à travers ton Fils unique. Tu nous as rassemblés encore une fois afin que nous puissions être encouragés et exhortés par ta parole vivante. C'est pour ça que Seigneur, nous te demandons d'ouvrir notre cœur et révèle à chacun tout ce qui est nécessaire pour que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. On a une tendance de changer beaucoup de choses quand on ne voit pas bien. Par exemple, on change d'école, d'association, du travail, d'église, de ville, même du pays. On change tout pour trouver une solution positive. Mais nous savons très bien que ce changement de la condition extérieure ne nous apporte toujours pas un grand bonheur si notre cœur reste au même. Nous savons très bien par notre propre expérience. Mais cette expérience plutôt universelle nous aide beaucoup à comprendre le plan rédempteur de Dieu. Parce que notre Dieu a renouvelé lui-même plusieurs fois les conditions extérieures de ces premières créatures. Par exemple, vu le péché originel d'Adam et Ève, Dieu a changé leur lieu d'habitation du jardin d'Éden à son extérieur. Peu de temps après le déluge, Dieu a dispersé toutes les personnes qui ont construit la tour de Babel. Et Dieu a reformulé, renouvelé plusieurs fois le régime d'Israël, son peuple qu'il a choisi. De l'esclavage en Égypte à l'indépendance en Canaan. Et à un moment, Dieu a passé le peuple de Dieu aussi dans le régime anarche. Et au Royaume-Uni est divisé. Enfin, le peuple de Dieu a connu la déportation et la domination par le pouvoir étranger. Ainsi, Dieu a renouvelé plusieurs fois les conditions extérieures de l'humanité. Mais l'homme n'a pas arrêté de pécher contre Dieu. Surtout le peuple d'Israël, choisi par le Seigneur, par Dieu, il a gardé toujours le cœur endurci envers le Seigneur. Alors, au temps d'Ésaïe, Dieu a enfin annoncé son plan définitif, radical, suprême. Il a dit, à travers la bouche d'Ésaïe, « Je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Et puis, nous savons très bien que si cette parole prophétique sera réalisée à la fin de l'histoire du monde, au moment où notre Seigneur Jésus reviendra sur la terre. Nous lisons dans l'Apocalypse, voilà, si puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ainsi, la nouvelle création est le plan suprême de Dieu créateur. Elle est la dernière partie de la bonne nouvelle que Jésus nous a annoncée. Donc, nous pouvons dire que la nouvelle création, c'est notre dernier lieu d'habitation. Pourtant, beaucoup de chrétiens, y compris moi-même, nous considérons la nouvelle création comme une théorie très très lointaine. Nous ne prenons pas cette bonne nouvelle au sérieux. C'est pour ça que ce matin, pour surmonter une certaine incrédulité à la nouvelle création, j'aimerais vous inviter à lire avec moi un passage que l'apôtre Paul nous a écrit pour comprendre, pour attendre la nouvelle création. En fait, Jésus, il réalise cette nouvelle création en 12 étapes. D'abord par sa résurrection et ensuite c'est par son retour. Mais aujourd'hui, nous allons lire tout simplement c'est la première partie que nous connaissons déjà par notre propre expérience. C'est la résurrection de Jésus-Christ et la valeur de cette résurrection. Donc nous lisons avec moi, c'est 12e Corinthiens, chapitre 5, versets 16 et 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 21. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un et dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait pour nous péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Pour commencer la prédication, je tiens à attirer votre attention sur 12 adverbes qui se trouvent au verset 16. Maintenant et désormais. Ces 12 adverbes marquent la postériorité par rapport à un point de référence indiqué dans le contexte. Il est donc logique de trouver le point de référence, le repère dans le contexte, dans le passage précédent. Au verset 15, l'apôtre Paul il a bien précisé que la mort et la résurrection de Christ est le point de repère pour distinguer entre l'ancien et le nouveau. Jésus a totalement changé la condition extérieure par sa mort et sa résurrection. Donc, tous les êtres humains ont une possibilité de connaître la nouveauté qu'il a apportée par sa mort et sa résurrection. Mais ça ne veut pas dire que si tout le monde peut bénéficier de manière automatique et mécanique sa nouveauté. Il faut abandonner et rejeter ce qui est ancien. Alors, qu'est-ce qui est ancien à rejeter? Au verset 16, l'apôtre Paul il nous a dit que ce qui est ancien, c'est la façon de connaître Jésus de manière purement humaine et charnelle. Il faut abandonner de voir Jésus avec le regard charnel et humain. Par exemple, Jésus est né sous l'action de l'Esprit-Saint, Jésus est né d'une femme vierge. Mais on dit que c'est un mythe. Jésus, il est le Fils de Dieu, mais on dit que non, Jésus, il n'est qu'un charpentier, il est fils de Joseph. L'enseignement de Jésus, les guérisons, les miracles de Jésus ont considéré comme ceux d'un grand philosophe, d'un charlatan, d'un guérisseur. Et enfin, Jésus est mort et est ressuscité trois jours après, mais on dit que son corps a été volé par ses disciples. Ainsi, on refuse de croire en Jésus comme le Fils de Dieu. C'est un raisonnement tout à fait du monde non régénéré. C'est pour cela que si on aime bien rester loin de Dieu, on aimerait bien vivre en autonomie sans vouloir de croire en Fils de Jésus. Malheureusement, au sein de l'Église, ce n'est pas difficile de voir des chrétiens, peut-être non chrétiens, qui continuent à connaître Jésus de cette manière. Par exemple, si j'aimerais d'abord donner ces trois groupes dans les églises corinthiennes que l'apôtre Paul a écrit, et je vais vous donner aussi quelques exemples de notre ère. D'abord, il y avait trois groupes au sein de l'église corinthienne. C'est un groupe, c'est un super apôtre, libertin et légaliste. Super apôtre, ils accusent l'apôtre Paul, même s'il soit fondateur de cette église, ils l'accusent parce qu'il est faible et doux. Son caractère est doux. Il souligne beaucoup l'importance de la vision, des miracles, des guérisons, des révélations. Et parfois, ils se vantent beaucoup de leur relation avec l'église de Jérusalem. Ainsi, ils accusent l'apôtre Paul. Et il y a aussi un groupe, c'est libertin. En fait, ils pensent que c'est l'homme, un être humain, c'est composé en deux parties, l'âme et le corps. Donc, ils dissocient l'âme du corps en disant, voilà, si notre âme a été déjà rachetée par le sang de Jésus-Christ, donc le corps, avec le corps, nous pouvons faire n'importe quoi. Donc, ils ont dissocié l'âme et le corps. D'autre côté, il y a des légalistes. Oui, c'est vrai, notre être s'est composé en deux parties, mais notre âme, notre spiritualité peut être conduite et gérée par le règlement du corps. Par exemple, voilà, c'est si je prie trois fois par jour, si je donne beaucoup d'argent à quelqu'un d'autre, voilà, c'est nous pouvons garder la pureté de notre spiritualité. Donc, il y a des légalistes. Je pense que si nous pouvons voir ce groupe, même au sein de l'Église d'aujourd'hui. À part ces trois groupes, aujourd'hui, nous pouvons voir des chrétiens qui croient à la théologie libérale et à la théologie de prospérité et à la théologie œcuménisme au sens de l'interreligion. Voilà, si il n'y a qu'un seul Dieu mais Dieu se manifeste dans d'autres religions de formes un peu différentes. Et aujourd'hui, si dans les pays occidentaux, surtout aux États-Unis, il y a un groupe qui apparaît très récemment, c'est un groupe qui souligne beaucoup l'importance du bonheur par soi-même. Ainsi, tous ces gens-là, ils ont une tendance de ne pas vouloir s'engager à l'église locale. Ils gardent la distance pour chercher leur propre bonheur par soi-même. Envers ces gens-là, l'apôtre Paul, il demande de rejeter et de vivre la nouveauté que Jésus nous a apportée. Alors, comment est-il possible de vivre la nouveauté? Lisons verset 17. Par certains théologiens, ce verset est le résumé de toute la révélation de Dieu. Si quelqu'un est en don le Christ, c'est une création nouvelle, ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Donc, pour vivre la nouveauté, il faut que nous soyons unis avec le Christ. Si nous ne sommes pas nouveaux nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre la nouveauté que Jésus nous apporte. On l'appelle le salut. Union avec le Christ et salut. Ce salut est exprimé, expliqué d'un autre terme dans les versets 18 et 19, c'est la réconciliation. Alors, qu'est-ce que la réconciliation? La réconciliation, d'après un événement de pardon, la relation brisée par le péché et le lien brisé par l'inimitié est restauré. C'est, on l'appelle la réconciliation. Donc, la réconciliation a lieu entre l'offensé et l'offenseur. Il y a quelqu'un qui attaque et il y a quelqu'un qui est blessé. Donc, la réconciliation a lieu entre deux groupes, deux parties, accusé et offensé, oui, pardon, oui, offenseur. Alors, entre Dieu et l'homme, qui est offenseur et qui est offensé? C'est Dieu qui est offensé. C'est Dieu, lui, qui est en colère contre l'homme qui a désobéi à la loi de Dieu. Alors, comment est-il possible d'avoir la réconciliation entre Dieu offensé, l'homme et offenseur? Prenons un exemple de mon couple. Mon épouse est un peu mal à l'aise, mais j'aime bien prendre un exemple du couple. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis souvent au fond sœur. C'est biblique. Parce que c'est Dieu créateur a puni avec un terme, mais je vais en aborder peut-être un autre jour par rapport à ce terme. Mais en tout cas, je suis souvent offenseur et pour avoir son pardon, et je fais de mon mieux. Je nettoie plus souvent, proprement, et parfois si je donne une parole flatteuse en disant « tu es belle », parfois si je lui offre une petite chose, enfin, elle accepte mon pardon, dans ce cas-ci, voilà, la réconciliation a lieu et je peux respirer tranquillement, normalement, dans la maison. Mais peu de temps après, je recommence. Ce n'est pas que moi, je pense. J'espère. Ouais. Mais dans cette procédure, ce qui est important et essentiel, c'est que l'offenseur présente directement son pardon à l'offensé. Mais comment un homme pécheur peut-il présenter directement son pardon à Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Pourquoi? L'homme est éternellement saint. L'homme. Ah non, pardon. Dieu est éternellement saint. L'homme est éternellement pécheur. Donc, chaque fois que l'homme pécheur s'approche de Dieu, il va mourir. Donc, ce n'est pas du tout possible d'avoir une réconciliation entre Dieu saint et l'homme pécheur. Il faut changer la condition. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, qui peut changer cette condition? Il faut trouver quelqu'un ou bien quelque chose qui satisfait la double nature. Celui qui s'approche de Dieu et en même temps de l'homme. Sinon, ça ne marche pas. L'homme ne peut pas devenir médiateur parce qu'il est toujours pécheur. L'homme ne peut pas être médiateur parce que dès sa naissance, on est toujours pécheur. C'est pour cela que c'est Dieu nous a envoyé son Fils unique Jésus qui satisfait cette double nature, pleinement homme et pleinement Dieu. C'est lui qui porte le péché de chacun d'entre nous. Donc, grâce à lui, nous pouvons avoir une réconciliation avec Dieu Père Créateur. Donc, une fois que nous sommes entrés dans l'œuvre de Jésus-Christ, voilà, c'est nous sommes nouvelles créatures. C'est pour ça que s'il y a dans votre témoignage, souvent on entend parler que voilà, si jusqu'à hier, si j'ai regardé le monde avec amertume, mais aujourd'hui je vois un peu différemment. Je vois le monde avec compassion, avec amour. Hier j'étais aveugle, mais aujourd'hui je vois la lumière. Ainsi, Dieu a changé notre intérieur, notre âme. Alors, nous, en tant qu'un être humain, nous voulons toujours changer les conditions extérieures. Mais Dieu a changé notre intérieur, notre âme, afin que nous soyons réconciliés, afin que nous soyons nouvelles créatures en Christ Jésus. La notion de la nouvelle création rappelle tout naturellement l'ancienne. Sinon, il n'y a aucun sens. Alors, que s'est-il passé à la création ancienne, plutôt à la première création? Maintenant, si je vous invite à rappelez ce que vous avez déjà lu dans les trois premiers chapitres de la Genèse. Mais sans entrer en détail, je vais résumer trois missions que notre Dieu créateur nous a données. On l'appelle le mandat créationnel. Après avoir créé l'homme et la femme à son image, Dieu nous a donné à Adam et Ève une mission. Dans le chapitre 1, verset 28, nous lisons soyez féconds, multipliez-vous et soumettez la nature. Ainsi, la première mission que Dieu Créateur nous a donnée s'agit bien de la multiplication de l'image non pécheresse de Dieu. Parce que Dieu a donné cette mission avant que Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, la première création, c'est multiplication des images non pécheresses de Dieu. La deuxième mission que notre Seigneur nous a donnée, nous trouvons dans le chapitre 2, verset 15. Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Cultiver et garder le jardin d'Éden signifie servir dans le temple de Dieu. Troisième mission que Dieu a donnée se trouve dans les versets suivants 16 et 17. Tu pourras manger tout sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, à ce jour-là, tu mourras, c'est certain. Donc, Dieu a donné la troisième mission, c'est la foi permanente à la parole de Dieu. Donc, aussi, il s'agit de la nourriture autorisée et interdite. Mais nous savons très bien la suite. Adam et Ève, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc ils sont condamnés à mort. Alors ici, nous pouvons poser une question suivante. Est-ce que ces trois missions que Dieu nous a données à Adam et Ève sont-elles annulées? Ces trois missions ne sont plus valables à nous, chrétiens, nouvelles créatures. Il me semble que c'est très important de poser ce genre de questions parce que ceci révèle la nature de l'œuvre de Jésus-Christ. Pour cela, je vais essayer de comparer tous les éléments de l'Ancien Testament à ceux du Nouveau Testament, notamment c'est dans notre passage d'aujourd'hui. Dieu a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. L'apôtre Paul, dans ce passage, appelle les chrétiens ambassadeurs pour Christ. Image de Dieu et ambassadeur pour Christ. Nous trouvons dans ces deux termes un même rôle. C'est représentation. L'image a un sens quand elle représente l'original. Image de Dieu sont appelées à représenter Dieu créateur. Ambassadeur pour Christ a un sens quand il représente le Christ. Sinon, on ne peut pas avoir le véritable sens. Donc, en nous créant en nouvelle créature, Jésus nous a renouvelé la mission créationnelle pour que nous puissions exercer. Alors, quelles sont les missions ambassadeur pour Christ? D'abord, c'est au verset 18, 19. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère de la réconciliation s'agit bien du salut. Plus de réconciliation, plus de salut. C'est-à-dire, notre ministère de la réconciliation s'agit bien d'agrandir et développer le royaume de Dieu. Donc, on peut dire que c'est la multiplication des nouvelles créatures. Mais cette multiplication ne peut pas se faire tout seul. Déjà, si dans la création, la première création, Dieu a appelé l'homme et femme de se multiplier ensemble, de travailler ensemble. Mais à cause du péché, le droit de travailler ensemble a restreint. Alors, Jésus est venu restaurer ce droit. Il me semble que c'est très important de comprendre ça, visualiser aujourd'hui dans notre communauté. C'est pour cela que j'aimerais vous demander de participer à une petite démonstration gestuelle. Selon la loi de Moïse, tous les enfants et les femmes, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le temple de Dieu. Déjà, on ne compte pas les femmes et les enfants. Donc, toutes les femmes et tous les enfants qui sont présents ici, de se lever et sortir de vos places et mettez-vous autour du mur. Parce que selon la loi de l'Ancien Testament, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le temple de Dieu. Les femmes, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le temple de Dieu selon la loi que Dieu a donnée à Moïse. Selon la même loi, l'homme de moins de 25 ans et plus de 50 ans, ils ne peuvent pas entrer dans le temple de Dieu pour le service. Donc, tous les hommes de plus de 50 ans et moins de 25 ans sortaient. Voici. Donc, c'est dans cette église seulement 6 personnes ont le droit de servir dans le temple de Dieu. Mais maintenant, parmi ces 12 tribus, seulement les Lévites peuvent entrer dans le temple de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas issu de la tribu Lévite, alors sortez. Voici, personne n'a le droit de servir dans le temple de Dieu, selon la loi de l'Ancien Testament. Mais c'est Jésus qui est venu changer cette condition. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni livre, ni l'esclave, parce que nous sommes tous un en Christ Jésus. C'est Jésus qui nous a donné le droit de devenir enfant de Dieu, le droit de servir notre Créateur. Ce que nous sommes ici est donc un fruit de l'œuvre de Dieu Trinitaire. Il a préparé depuis longtemps afin que nous puissions vivre ensemble dans la même communauté. Regardons les uns les autres. Nous sommes tous différents, mais nous formons un seul corps en Christ Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Pour exercer ce ministère de la réconciliation, Dieu nous a donné une parole de réconciliation. Alors, quelle est la parole de la réconciliation? L'apôtre Paul, il a bien résumé au verset 20 et 21 en disant « Jésus, en lui, il n'y a aucun péché. » Mais c'est lui qui a porté nos péchés à notre place afin que nous soyons réconciliés en Dieu. Cette parole n'est pas d'une simple humaine, ni une parole qui encourage moralement les autres. Ce n'est pas une leçon humaine. Ce n'est pas un médicament pour guérir notre physique. Mais c'est une parole qui nous permet de vivre la nouveauté, le salut en Christ Jésus. Ainsi, cette parole doit être gardée sainement. Ce n'est pas une parole que nous grignotons chaque jour, non. Il faut que nous mangions bien chaque jour afin que nous soyons nourris sainement et fidèlement. Ainsi, Jésus, il a changé, plutôt de transformer le mandat créationnel en mandat missionnel. Ici, dans cette communauté, souvent, c'est déjà entendu parler la notion de l'Église missionnelle. Souvent, c'est André, il a parlé de ça. Ouais. Donc, nous sommes appelés à exercer ce ministère missionnel en tant qu'Église, c'est-à-dire en tant que rassemblement des nouvelles créatures. Mais je voudrais finir par souligner un aspect important. Et dans l'Ancien Testament, si dans la première création, Adam et Ève, ils ont été condamnés à mort à cause de ce péché, le péché originel. Du coup, si ils étaient obligés de sortir du jardin d'Éden. Mais dans la nouvelle alliance, nous restons toujours près du Seigneur, parce que c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Tout à l'heure, si votre pasteur Oscar a parlé de l'assurance, oui, je viens volontairement citer le verset que l'apôtre Paul nous a donné. Nous avons l'assurance en Christ Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni l'avenir, ni le présent, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucun autre créateur ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Christ Jésus. C'est notre assurance. Car le malin ne peut nous toucher. Avec cette assurance que le Seigneur nous a donnée, nous pouvons servir maintenant notre Seigneur Jésus autant que nous voudrions. Donc, si vous avez peut-être arrêté de servir le Seigneur de plusieurs raisons différentes, mais comme l'apôtre Paul encourage Timothée, ranimez le don que le Seigneur vous a donné afin que notre Seigneur soit élevé et glorifié par le service en collégialité. Amen. Amen. Seigneur, il a fait de chacun d'entre nous ambassadeur pour Christ. C'est gratuit. Mais ce travail, vraiment précieux, parce que nous sommes en train de créer une nouvelle création en associant, en participant à l'œuvre de Jésus-Christ. La valeur de chacun, la valeur du travail de chaque personne est totalement différente de ce que nous faisons dans le monde non régénéré. Donc, soyons créatifs en Christ Jésus pour annoncer le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as envoyé ton Fils unique afin que nous soyons ambassadeurs pour toi. Nous soyons nouvelles créatures. C'est pour cela que Seigneur, tu nous as donné une grande espérance en toi et à ton retour. Seigneur, merci pour ton accompagnement chaque jour. Merci pour ta fidélité envers chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous à ranimer le don que, Seigneur, tu nous as donné. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci beaucoup.